On va arriver à votre bouquin, je vous dis où on y est, pas trop bien. C'est en fait ce cortex ici, qui est un cortex antérieur et qui correspond au niveau des aires de Brodmann, à l'aire de Brodmann numéro 4. Vous avez une scissure ici entre le lobe frontal et le lobe pariétal. Et cette scissure ici, elle est comme ça, elle est assez profonde, elle sépare bien les deux lobes. Et on l'appelle, entre autres, la scissure centrale. Elle est située donc en avant de cette scissure. Et le rôle de l'aire motrice primaire, c'est vraiment d'initier le mouvement. Donc c'est elle qui lance, qui contrôle, je pourrais dire, le mouvement volontaire. Donc si par exemple, je veux tendre la main pour aller attraper un truc là, c'est de l'aire motrice primaire que par l'ordre d'aller attraper ce truc-là. Ça va ? Donc, c'est de là que ça part vers les muscles, directement. Donc, c'est le dernier relais. Parce que, bien sûr, si je pense, l'idée « je pense » doit être envoyée quelque part, qui va décider de qu'est-ce qu'il faut faire pour, et qui va envoyer finalement un message à l'aire motrice primaire, qui va mettre les rameurs en mouvement. Ça va ? Les muscles.
Tu veux bien la remontrer sur ton crâne, l'air numéro 4.
L'air numéro 4, c'est celle-ci.
Et l'avant, là-dessus ?
Ici. Ouais. Et donc, à l'intérieur, elle se prolonge à l'intérieur.
Okay.
Donc, en fait, si vous regardez, elle part de là et elle se prolonge ici un petit peu en dessous. Donc, elle fait tout un tour comme ça.
Quand tu dis, enfin, c'est très basique à ce que j'ai demandé, mouvement volontaire, c'est par rapport à respirer.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en fait, Penfield, un neurochirurgien canadien, s'est amusé le long de tout ceci à aller stimuler un petit endroit, et puis pouf, il y avait un doigt qui bougeait. Ou bien tic, et puis il y a. Ou bien tic, ça va ? Donc il s'est amusé vraiment en stimulant, ou bien le gros orteil, à voir à quelle zone correspond chaque partie, à quelle zone du corps correspond chaque partie dans le cerveau. Et donc il en est arrivé à développer ce qu'on appelle, et là je crois que vous l'avez dans le bouquin, donc là on passe dans le bouquin à la, non pas à la dernière page. À la page tata, cortex moteur, on commence à la page 73. Voilà, vous avez l'homonculus à la page 78. Peut-être que je l'ai aussi.
Ah, oui.
Vous voyez ? Et en fait, donc il s'était amusé à aller stimuler chacune de ses parties et il a dessiné une carte qui représentait. Qu'est-ce qui correspond à quoi ? Et normalement, c'est un homonculus, je dois être voilà, ma dernière page. Parce que j'ai un truc que je voudrais absolument vous dire. Ici, vous voyez.
Il n'y a plus de lampe.
Ah merde. C'est un sabotage, c'est ça ?
C'est à force de l'éteindre et de le rallumer.
Quoi ?
C'est à force de l'éteindre et de rallumer comme ça.
Tout ouais, saut comme ça.
Ouais. Rouge.
Ouais, elle a bien pété.
Ouais, on l'a clairement vu d'ici.
Quoi ?
On l'a clairement vu d'ici, ça.
Il n'y a pas la lampe de secours ?
Non, elle n'est pas dedans.
Le secrétariat, il n'y en a plus.
Est-ce que tu voudrais bien ? Mais tu dois sortir de Grégoire.
Très bien.
Chez Régine,
ouais.
Il y en a un dans le coin qui ne fonctionne plus. Mais si tu ouvres, regarde s'il n'y a pas une lampe dedans. Et attends. Si jamais il y a une lampe qui est fixée dessus, prends un papier blanc dans la cuisine pour la saisir. Merci. L'appareil en haut est limité. Non, si on en a encore une. Je vais attendre de voir sur la page. Oui.
L'air numéro 4,
C'est l'air motrice primaire, ça s'appelle.
L'air motrice primaire.
Et si tu vas voir à la page 76, tu ne vas pas le voir correctement parce que ici je l'ai mis en couleur. Regarde, c'est moi. Tu vois, tu as un triangle ici, puis une aire. Et la, c'est la bleue.
C'est la bleue.
C'est marqué cortex moteur primaire. C'est de ça qu'on parle cet après-midi.
Et la page 78 montre la représentation uniquement de ce cortex moteur primaire.
Justement, c'était ça que je voulais dire. Si tu regardes, ici en dessous, c'est marqué cortex moteur.
Oui.
Et là, cortex somatosensoriel.
Oui.
Ça va? Le cortex moteur existe comme ça, des deux côtés.
D'accord.
À l'endroit rouge. Okay. Le cortex somatosensoriel existe à droite et à gauche. Mais à l'endroit bleu. Ça va? Mais ici, dans la plupart des bouquins d'anatomie, on vous met un côté l'un, l'autre côté l'autre. Ça va? Mais en fait, si je suis à l'endroit rouge, j'aurai cortex moteur en miroir des deux côtés.
En fait, il est un peu plus devant. Quoi.
Voilà. Et si je suis à l'endroit bleu, j'aurai cortex somatosensoriel des deux côtés.
Okay,
ça va? Ça, c'est important de savoir quand vous voyez ce dessin. Et c'était ce que je comptais vous montrer.
Excepté la vision,
c'est une bêtise. C'est pour tout à l'heure, donc d'accord. On va y arriver. C'est plus le sens tactile, c'est ni la vision, ni l'audition,
d'accord.
Ni le goût, c'est ni le toucher. C'est le toucher,
c'est
les articulations, le goût.
C'est quel numéro, celle-là?
La 5.
Voilà, comme ça je vais sur mon chemin.
Bon. On va quand même l'attendre, hein, je l'envoie. François Larry.
François
qui est monté. Bon, on va voir. Laisse tomber, c'est bon. J'efface mon tableau.
Lors qui parle de l'air motrice, tu vas nous dire par où elle passe avant d'arriver au muscle.
De quoi tu me parles?
Tu as dit qu'il y avait un homme qui partait de l'air motrice pour affiler le muscle. Hein.
Oui.
On va voir par où elle passe au
niveau. Oh, on va voir ça au cours des 4 jours.
D'accord.
Mais ce qu'il y a, c'est que si, voilà. c'est un ordre volontaire ou involontaire, ça ne prend pas les mêmes voies, etc. etc. Tu as trouvé quelque chose?
Je peux.
Oui, vas-y, tu passes et tu repasses. Celle-là.
Attends.
Non, mais regarde, tu vois bien le truc.
Mais oui, mais ça n'a pas la noire.
Mais c'est pas
ça. Ça sent pas que tu as
mis tes doigts dessus. En plus, ça reste coincé là.
Ah, ah oui, oui.
Voilà. Bon, tu veux bien venir, Françoise?
Oui.
Ça me satisfait. J'ai une nouvelle ici. Oh, décidément, il va vraiment falloir qu'on en recommande parce que c'est. Il n'y avait pas de boîte dedans.
Non, oui.
D'habitude, on a 3-4 boîtes dans chaque.
C'est bizarre parce qu'elle n'est pas noire du tout.
Non, c'est pas noir, ça devient pas noir, celle-là. Ça pète juste là, voilà.
Regarde, ceci est pas noir.
Merci Françoise.
Allez, avec plaisir.
Si tout le monde pense demain de dire au secrétariat qu'on doit recommander les ampoules,
colle leur une ampoule cassée sur leur tableau.
Bien, donc la seule chose que j'ai dite Françoise quand tu n'étais pas là, c'est que c'est vraiment important de savoir que même si sur ce dessin on voit cortex moteur, cortex somatosensoriel, qu'en fait le cortex moteur existe des deux côtés,
ah oui,
et le somatosensoriel est deux.
C'est bilatéral.
Donc voilà,
exact.
Voilà la découverte de Penfield. Et si vous regardez, vous voyez que vous avez, on voit dans le cortex moteur, que vous avez, par exemple, au niveau du visage, une zone énorme. La langue, une zone énorme. Les mains, la main et les doigts, une zone énorme. Le coude, le bras est beaucoup plus petit que la main dans son ensemble. Et puis vous voyez ici, vous avez épaule, tronc, hanche, genou et pied. Donc vous voyez qu'en fonction que la zone prend plus ou moins de place dans le cerveau, en fonction de plusieurs choses, en fonction de la différenciation de mouvements. Par exemple, un pouce peut fonctionner tout à fait indépendamment d'un index. En fonction du degré de liberté du mouvement. J'ai vraiment toute liberté avec le pouce d'aller dans tous les sens. Et en fonction de la précision du mouvement. Je ne peux pas, avec mon genou, aller saisir un verre en cristal de manière aussi précise que je peux le faire entre mes deux doigts.
Mais il y en a qui le font.
Bien sûr.
Non, mais je veux dire, il y en a qui
développent ça.
Tout à fait.
Tout à fait. Et donc, exactement, si je développe plus un sport, un hobby ou un n'importe quoi, la zone correspondante va se développer dans le cerveau. Si au contraire, je suis amputée d'un bras, d'une jambe ou quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette zone-là dans le cerveau va devenir libre et que les zones adjacentes vont prendre la place. Et c'est comme ça, bon, ça c'est pas ici au niveau... Et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans le cerveau pour ça, mais imaginez un aveugle, ben toute la zone vision directe, il ne va pas la voir, mais il va développer d'autres connexions par rapport à la tactilité, etc. etc. Ça va ? Supposons que vous soyez amputé d'une partie du pouce, par exemple. Si vous regardez où se trouve le pouce... Le pouce est ici, et juste à côté, c'est la nuque.
La nuque?
Oui. C'est comme ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça.
Oui.
Donc si je suis amputée d'une partie du pouce, la nuque peut prendre plus de place. Oui? D'accord?
Oui.
Bon. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive des trucs bizarres. Du style... la sensation qu'une mouche sur la nuque vient du pouce.
Comment?
Mais c'est comme si j'avais une mouche sur la nuque.
Oui.
Tu vois? Mais là, c'est au niveau sensoriel, pas au niveau moteur. Mais j'ai une mouche sur la nuque.
C'est comme si
elle venait du pouce que je n'ai plus, par exemple.
Ah, oui.
Tu vois? Parce qu'avant, c'était le pouce qui était dans cette zone-là. Et donc, il peut parfois y avoir des confusions. Ou alors des confusions au niveau membre fantôme. Hein? Le membre a disparu, mais je sens encore.
T'as une mouche là et t'as l'impression qu'elle est ici ou quoi?
Oui, c'est ça.
Ah, ça se passe au niveau du cerveau. Je croyais qu'il restait la matrice énergétique du membre.
C'est ce que les gens qui se disent énergéticiens ont envie de croire. Mais c'est clair qu'au niveau du cerveau, il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau-là.
Dis, maintenant. Donc, ça veut dire que si tu as un truc qui disparaît, c'est forcément un truc d'à côté.
Évidemment.
Comment ça? Sinon, on pourrait s'arranger.
Oui, on pourrait s'arranger.
Bah, t'as qu'à t'arranger si t'as envie d'avoir un pouce plus développé, tu... Je sais pas.
Je suis pas mal à la nuque.
Alors, de ce cortex moteur, là, eh bien, vous allez avoir... Voilà... Tout ça, ce sont des schémas que vous avez là. Vous avez en fait ici le cortex moteur avec les noyaux des neurones et vous voyez que les axones passent, descendent, et ici vous voyez que ça croise au niveau d'un truc qu'on appelle la pyramide, la médulla oblongata en français, ça s'appelle le bulbe. Et donc au niveau de la pyramide bulbaire, au niveau du bulbe, c'est-à-dire relativement bas dans le tronc cérébral, eh bien, vous avez un croisement. C'est pour ça que si c'est un message qui est envoyé de mon cerveau gauche, eh bien, c'est mon doigt droit qui va bouger.
Mais tout est marqué, hein, que ça croise dans le bulbe. Bon,
tout ça, c'est marqué, donc je ne vais même pas prendre note. Cool.
Le bulbe, c'est bien le brachial.
Oui, c'est ça. Médulla oblongata, c'est le bulbe. Bien. Alors, si j'ai une lésion au niveau du cortex moteur, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Ben, ça peut diminuer mon degré de liberté. Mon mouvement va être beaucoup moins libre. Ça peut aussi diminuer la capacité de différencier le mouvement. Avec ma main, au lieu de pouvoir faire un mouvement précis, ce sera un mouvement grossier. Je prendrai quelque chose comme ça et non plus comme ça.
Les dyspraxiques, c'est les yeux.
Ça, je ne sais pas te dire.
Je peux
aller. Oui. Là, je n'allume pas parce que je vais devoir éteindre tout le temps. Donc le degré de liberté du mouvement change, le degré de précision, de différenciation, de fin à grossier, mais aussi de précision dans la direction. Si je suis tout à fait OK, ben je dis que je veux prendre ça, contrôle volontaire, j'y vais. Maintenant, si j'ai une lésion, il se peut que je doive chercher avant d'y arriver. Ça va ? La force de contraction aussi est modifiée. Et ça peut être que j'ai plus aucune force jusqu'au moment où il n'y a rien, j'arrive plus à tenir des objets. La vitesse de mon mouvement peut être diminuée. Et si je répète plusieurs fois, je vous redicte ça. La constance de direction, soit que je veuille aller vers là et j'y vais plusieurs fois et chaque fois j'y vais, soit que je veuille faire un trajet lointain. Et au début, je pars bon et puis pouf. Ça va ? Donc, je vous redicte. S'il y a une lésion, ça peut toucher la liberté du mouvement. Ça peut toucher le degré de différenciation de mouvement fin à grossier. Ça peut toucher la précision du mouvement. Donc, je suis moins précise dans la direction. Ça peut toucher la force du mouvement, moins forte. La vitesse du mouvement, moins rapide, et la constance dans la direction. Alors, qu'est-ce qui peut favoriser une lésion au niveau du cortex moteur ? Ben, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Et en général, les personnes qui font des accidents vasculaires cérébraux, ben, vous avez bien vu, ils sont là à l'hôpital, après leur accident, on prend leur bras, c'est la paralysie flasque. Il n'y a plus rien. Et en général, après un AVC, c'est la première étape. C'est je n'ai plus aucun tonus, paralysie flasque. Et puis, après un temps de cette paralysie flasque, on passe à une paralysie spastique. Ça va ? Plus ou moins forte, avec soit je fais des mouvements tout à fait incontrôlés, soit je ne sais plus faire de mouvements, mais je suis rigidement figée dans une position. Ça va ? Et puis en troisième étape, en fonction de l'intensité de la zone qui a été détruite, de la surface de la zone détruite, je peux récupérer plus ou moins certains mouvements, pas nécessairement dans leur précision ni dans leur vitesse, etc., mais je peux récupérer certains mouvements. Et ça, c'est un truc qu'on a découvert en kinésio et qui est quand même super intéressant. Je vais faire une métaphore. Supposons que ceci soit, le tableau soit mon cerveau. Ça va ? Et les cellules mortes de mon cerveau couvrent cette zone-là. Ça va ? Mais en général, quand il y a une lésion, eh bien, le corps va chercher à réparer d'une manière ou d'une autre, à éliminer les déchets, etc., etc. Et tout ça va faire que les cellules... Hop, c'est malade, je crois que c'était une rouge. Là, vous voyez la différence ? Les cellules autour vont être comme sidérées, quoi. Je ne peux plus fonctionner parce que je suis dans une réaction de stress intense. Je dois rester comme ça. Ça va ? Là, c'est mort, mais autour, c'est sidéré. Eh bien, sidéré égale stress. Et si je peux aller à cet endroit-là dans mon cerveau et enlever les cellules sidérées, c'est-à-dire pas enlever les cellules, mais enlever la sidération des cellules, enlever le stress des cellules, qu'est-ce que je fais ?
ben voilà, je n'ai plus qu'une petite zone de mon cerveau qui est atteinte et plus toute une énorme zone qui me paraissait. Ça va? Et c'est comme ça que parfois, en kinésio, ou parfois même sans kinésio, quelqu'un qui semble avoir eu une lésion qui touchait énormément de son cerveau, progressivement, au cours du temps, peut récupérer, plus ou moins, mais qu'avec la kinésio, on permet de récupérer encore plus, parce que s'il y a du stress qui est resté coincé là, les cellules ne peuvent plus fonctionner de manière optimale. Ça va? Et donc ici, par exemple, si on travaille sur quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral dans la zone motrice, eh bien on peut aller voir et éventuellement rentrer en circuit le stress de cette zone-là et voir que les choses peuvent améliorer. Ça va? Bien.
Les AVC, ils sont souvent dans cette zone.
Oh, ils peuvent être à plein d'endroits. Hein. Ça peut être à plein d'endroits. Souvent, c'est au niveau du. Mais ça couvre quand même une zone assez importante. Et puis après, il y a des zones qui ont été sidérées, un halo, un œdème autour, pour réparer. Mais voilà. Et puis, il y a les zones vraiment lésées. Mais souvent, ça peut être au niveau du langage. Il y a des gens qui, tout d'un coup, ne parlent plus et puis qui peuvent récupérer. À ce moment-là, on sait que ce n'était pas la zone lésée, mais que c'était la zone sidérée.
Qui était en train de récupérer.
Voilà. Et donc, en fonction, ça peut toucher un peu partout dans le cerveau. Et souvent, c'est, pour résumer ça, quand j'ai vraiment une lésion organique, le dysfonctionnement fonctionnel est beaucoup plus large que la lésion. C'est ce halo autour. Et les fonctions sont toujours OK. Il suffit d'enlever le stress. Et la kinésio permet de facilement enlever le stress. Voilà pourquoi parfois on dit avec la kinésio, on a fait des miracles. À cause de ça, simplement, ça s'explique. C'est qu'on a enlevé le stress, mais la zone refonctionne. Bien. Où est-ce que je suis là? Donc ça, c'est quand j'ai des lésions organique avec des halos de dysfonction. Mais parfois, je n'ai pas accès à une fonction cérébrale, non pas parce que j'ai une lésion, mais simplement parce que mes fonctions dorment. Et ça s'appelle à ce moment-là non plus une lésion organique, mais une lésion fonctionnelle. Ça veut dire que si je vais voir dans la microscopie des cellules parfaites, elles sont vivantes. Mais c'est un petit peu comme dans le halo, elles dorment, figées sur place. Alors, dans ce cas-là, on a moins de symptômes que s'il y a une vraie lésion organique, mais c'est un petit peu la même chose. J'ai des difficultés dans mes mouvements, surtout dans la précision, où je n'ai pas assez de force, etc., etc. Oui.
Les lésions fonctionnelles, c'est aussi suite à des événements
Du stress ou de l'alcool pris par la mère ou des médicaments qui jeûnent ou un choc sur la tête, etc., etc. C'est pas pour ça que la cellule est morte, mais elle dort. Voilà. Et bien sûr, tout ça, la personne ne va pas avoir accès à cette fonction du coup. Et ça va impliquer sur son comportement. Ah oui, je suis pas bon en sport, on se fiche toujours de ma gueule parce que chaque fois que je vais sauter dans une balle, mon pied vole en l'air et pas sur la balle, etc. Et ça entraîne évidemment toutes les difficultés de vie en conséquence. Et justement, en kinésio, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, ben, on peut réveiller ces fonctions dormantes, que ce soit par le brain gym ou par ceci. Hein. Je ne dis pas que c'est la panacée ici. L'éduc fait tout à fait ça, de réveiller des fonctions dormantes. Toute branche de kinésio a ce but-là, plus ou moins directement marqué. Et en général, quand quelqu'un, par exemple, prenons un petit gamin, il voit ses frères, il voit son père jouer au football dans le jardin. Mais il a envie. Ok, alors il essaye, mais ça ne marche pas. Il essaye encore, il commence à se ficher de sa gueule. Ça ne marche toujours pas. Il y a un moment donné où il ne voudra plus faire de football. Parce que si j'y arrive pas, j'y trouve pas de plaisir, je veux plus. À cause de mon incapacité, je veux plus. Bien. Et voilà. Et c'est comme ça en lecture, c'est comme ça en maths, c'est comme ça en tout. Je veux bien, je suis passionnée, ça a l'air super intéressant de pouvoir lire un livre, etc. Je fais du mieux qu'on peut, ça marche jamais. Les autres, ça marche moins pas, j'arrête. Ça va? Alors, en kinésio, ce qu'on fait, ben, on équilibre ça, on enlève le stress, etc. Et puis, le gosse, il est là, il pourrait lire, jouer au foot ou n'importe quoi, parce que maintenant, ses fonctions sont éveillées, mais quel est le message qu'il a ? Ah, c'est pas pour moi. Et donc, non seulement il y a le stress de la fonction dormante, mais il y a aussi le stress émotionnel associé à tout ce qui a eu lieu autour de cette fonction dormante. Et c'est souvent un gros handicap auquel il faut penser en kinésio. Parce qu'au niveau moteur, tout va bien maintenant, par exemple. Mais au niveau émotionnel associé, et donc il faut non seulement équilibrer le stress, mais aussi relancer la personne vers. Et avoir, ah là j'y arrive, donc je suis de nouveau motivée et on est reparti. Ok. Donc au départ, le problème est fonctionnel et après, il devient émotionnel. On est presque au bout et on va pratiquer. Bien. Alors, le cortex moteur, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, on a vu tout à l'heure avec les informations partent de là, du cortex moteur, et descendent vers les muscles. Mais, et ça c'est peut-être intéressant de le noter dans un petit coin, c'est que le cortex moteur a aussi une fonction sensorielle, c'est-à-dire qu'il reçoit des informations venant de la périphérie, et ça c'est pour les doigts et les mains. On a tellement besoin de nos doigts et de nos mains qu'il y a aussi une fonction sensorielle dans le cortex moteur. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si j'ai une lésion au niveau du cortex sensoriel qu'on va voir tout à l'heure, j'ai une lésion, ok ? Mais je peux toujours, au niveau des doigts, je peux toujours l'avoir au niveau moteur, mais ça veut aussi dire que si au niveau moteur, j'ai une lésion au niveau des doigts et de la main, je vais perdre une partie de ma sensibilité aussi. Donc c'est dans les deux sens.
Mais que donc du coup forcément si tu perds ta sensibilité, il faut regarder aussi bien du côté moteur que du côté sensoriel.
Pour les doigts et les mains. Oui, tout à fait. Alors, pour préciser, dans les aires motrices, on a l'aire motrice primaire, celle dont je vous parle depuis le début, Brodmann numéro 30. Là, elle est responsable du mouvement d'un muscle individuel, parfois même de quelques fibres dans un muscle.
L'air motrice primaire.
Oui, l'air motrice primaire. Donc c'est quelques fibres, un muscle ou maximum un groupe de muscles, comme par exemple, pouf, le quadriceps. Ça va ? Alors vous allez voir qu'on a des aires motrices qu'on appelle secondaires, qu'on verra un tout petit peu plus loin. Elles sont responsables de mouvements beaucoup plus complexes. Ce n'est pas juste un doigt ou un muscle ou une fibre, c'est des mouvements complexes et séquentiels.
C'est quelle aire ça ?
L'aire motrice secondaire. Les aires motrices secondaires. Et par exemple, pour jouer d'un violon, pour jouer du piano, je n'ai pas besoin d'un muscle. J'ai besoin d'un groupe de muscles dans une séquence très précise. Ça, ce sont les aires motrices secondaires. Marcher aussi. Pour marcher, j'ai besoin de beaucoup de muscles qui doivent entrer en action puis lâcher de manière très séquentielle. Et donc, on peut dire un petit peu que l'aire motrice, c'est comme ça. C'est là-haut, on a, dans le cerveau, on a l'amiral. Et l'amiral, il dit, voilà, aujourd'hui, on va marcher. Et il envoie le message, on va marcher et on va aller vers là-bas. Enfin, c'est en bateau, on est en bateau. Et donc, il donne des ordres au lieutenant. Le lieutenant rajoute quelques petits détails, parce que c'est très bien de dire, il faut aller là-bas. Mais bon, il y a des tables dans le chemin, donc le lieutenant précise que le bateau doit passer comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, le lieutenant donne ses ordres aux sous-officiers. Les sous-officiers responsables, chacun d'un groupe de rameurs, dit « Toi, muscle, rameur, tu vas ramer comme ça. Après celui-là, tu vas ramer comme ça. Et puis pour tourner, vous vous arrêtez, vous allez bouger, etc. » Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a l'ordre, et puis il y a des systèmes qui complexifient les choses, qui mettent la séquence, et puis le mouvement est lancé jusqu'au rameur. Et qui est-ce qui envoie le mouvement au rameur ? L'aire motrice primaire. Ça va? Bien. Quand Richard a commencé à chercher et à créer ce cours, il a été frappé par le fait que l'oreille ressemblait étrangement dans sa vision des choses à ceci. Ça va? Ce mouvement, le même mouvement. D'accord? Donc là, ça descend, puis ça monte, ça fait le tour et ça redescend. Et donc il a utilisé comme modalité l'oreille. Et si vous regardez, c'est aussi à la fin de votre livre, si vous regardez l'oreille et que vous regardez le cortex, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, ils sont très proches l'un de l'autre, vous allez voir que le long de l'oreille, ici, il a placé les choses, intra-abdominal, pharynx, langue, mâchoire, etc., exactement comme le long de l'homunculus. Et vous voyez, vous avez ici les orteils, vous avez les orteils, le pied, etc. Je vous ai mis les traductions là-haut parce que je n'arrivais pas à rentrer dans le schéma. Ça va? Donc, il va, pour savoir quelle est la zone précise du cortex qui est stressé, il va utiliser l'oreille. On va voir comment. Bien. Alors, je vais faire. Non, je vais peut-être le laisser, parce que j'en ai besoin tout à l'heure de ça. Bien. Alors, on va commencer par faire une équilibration sur un mouvement. Et donc, vous allez chacune choisir un mouvement que vous avez envie d'améliorer. D'accord? Et ça peut être, par exemple, ça peut être la marche, ça peut être vous accroupir, ça peut être bouger le bras dans un mouvement que vous avez des difficultés à faire, n'importe un mouvement dans lequel vous avez des difficultés. Et donc, on va vous demander de faire des préactivités, comme on le fait en éduca. Tu as fait éduca, ok. Comme on le fait en éduca, évaluer la vitesse, la précision, la différenciation, votre position, comment vous êtes quand vous voulez faire ce mouvement, etc. Est-ce qu'il y a douleur? Ok. Si vous n'avez vraiment aucun mouvement à mettre en circuit, parce que vous avez l'impression que tout va bien, à ce moment-là, vous pouvez bouger tout votre corps et on verra bien où ça vous emmènera. Va? Donc le thème va être un mouvement, et ça peut être lié à un truc fin. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à trop serrer son stylo pour écrire, ou ça peut être un thème, voilà. Ou alors, par exemple, ça peut être des jeux aussi, on frappe dans les mains et tu dois frapper dans les mains après moi. Et donc je frappe dans les mains et la personne attend que lui elle le fait. Donc il y a un temps de réaction plus lent. Ça peut aussi être des difficultés de langage. Par exemple, je ne sais pas toutes ces histoires, si, cigare. Par exemple, tous ces jeux-là qui peuvent être difficiles à prononcer parfois, c'est aussi le musculaire. Où vous pouvez parfois sentir, tiens, avec ma main droite, j'arrive à bien serrer, mais ma gauche, j'ai moins de force. N'importe, quelque chose qui touche une partie du corps dans des problèmes de précision, de force, de direction, etc., etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va? Donc voilà pour le thème. Ensuite, et là je vais vous expliquer, mais je vais vous l'expliquer en faisant une démo sur moi, et chaque fois, je vais le mettre au tableau. PL, ça veut dire mettre en circuit. Tu vas voir comment je le fais après. Donc, 1, je rentre en circuit mon TAM. D'accord. En 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je veux aller dans le cerveau. Pour dire, je veux aller dans le cerveau, on a un mode et un point qu'on utilise, le mode organe. Le mode organe, c'est le point fermé, c'est comme le structurel, mais point fermé. Ça va? mode organe sur le 24 WC. Et donc je mets ça au circuit ici pour dire je vais dans le cerveau. PL mode organe fois le 24 WC. Ça veut dire fois, c'est en même temps. Je fais organe sur le 24 WC en même temps. Ça va jusque-là? Maintenant, je veux aller voir, là je suis dans le cerveau, maintenant je vais aller voir le cortex moteur. Et pour voir le cortex moteur, je vais mettre le pouce juste dans le creux devant l'oreille, là derrière, il y a un petit creux là. Ça va pas dans le trou auriculaire, mais vous avez le tragus, hein, ça, et juste là, là, comme ça. Et vous faites avec votre majeur une ligne verticale. Vous couvrez en fait l'aire motrice primaire en faisant ça. D'accord? Et donc vous allez voir 3, aire motrice primaire, et vous allez chercher la droite ou la gauche. Et il y en a une des deux qui donnera un changement prioritaire. Et vous rentrez en circuit, PN. Ça va? Donc, par exemple, j'ai rentré mon timbre et je vois que dans mon cortex droit, j'ai un problème. Moteur droit, j'ai un problème. Ça va jusque-là? Enfin, une fois que j'ai trouvé que c'était à droite, je vais 4 voir à l'oreille, droite ou gauche. Si c'était droite, ça devient droit. Si c'était gauche, c'est gauche. Et je vais donc à l'oreille de la personne, par exemple avec un taïchine, avec un bic, avec un coton-tige ou n'importe, ou d'abord avec la main, et vous allez tester, préciser quelle est la zone qui donne un changement d'indicateur prioritaire. Et une fois que j'ai précisé la zone, alors j'irai voir précisément avec mon taïchine, et là je verrai que j'ai un changement. Ça va? Donc je rentre le changement d'indicateur prioritaire.
Mais sur l'oreille, c'est vraiment
sur tout le bord de l'oreille, exactement comme ici. Tu vois? Là. Je suis vraiment le bord de l'oreille. Ça va? Et admettons que j'ai trouvé que c'était ici au 20.
C'est très proche, cette
pointe. Oui, c'est très proche. Mais on verra, tu vas voir tout de suite. Admettons qu'on arrive au 20, là. Ça va? Et donc, ça me donne une zone. Ça me donne une zone, ici. Et on va dire que cette zone, c'est le nez. En 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer le nez, musculairement. Activer la zone.
En la touchant?
Non, pas en la touchant, on est au niveau moteur. On n'est pas au niveau sensoriel. Donc, je vais demander à la personne de bouger son nez. Alors, c'est clair que... Oui, mais bon, si c'est cortex droit veut dire côté gauche. Si c'est cortex gauche, côté droit. Ça croise.
Ouais, quand même tout
ça croise dans 85%. Parfois, ça peut ne pas croiser. Mais en général, ça croise. Mais donc, ça veut dire que si c'est à droite, je dois bouger mon nez à gauche. C'est difficile.
Oui.
Maintenant, pour un doigt, c'est facile.
Oui.
Je peux bouger ou je peux bouger. Mais pour un nez, c'est plus difficile. Mais bon, on fait comme on peut. Donc, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais rentrer en circuit. Mon nez à gauche, hein. Voilà. Je rentre en circuit et je montre que j'ai du stress à cet endroit-là. Si je n'ai pas de stress, je peux aller voir ailleurs. Ça va? Ensuite, une fois que j'ai activé la zone, mais je peux m'amuser à tourner plusieurs fois comme ça. Retourner au 4, il y a une autre zone, je l'active, il y a une autre zone, je l'active. Et puis je peux même retourner au 3, voir s'il n'y a pas une autre, l'air motrice de l'autre côté, et recommencer la même chose. Ça va? Donc je peux avoir trouvé une zone prioritaire, puis retourner voir, tiens, est-ce qu'il y a une autre zone prioritaire sur l'oreille? Si on n'a plus, est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas? Donc, je peux le faire plusieurs fois. D'accord? Et puis, à la fin, j'équilibre.
Donc la procédure est très simple. Je rentre mon thème, je rentre, je dis au corps, je veux aller dans le cerveau, je vais voir quel cortex moteur, je vais voir quelle zone dans ce cortex moteur. C'est le nez, ok, je vais activer le nez de l'autre côté. Hein, le cortex commande à 85% le côté opposé.
Monique, tu peux scanner sur ton papier plutôt que sur l'oreille ?
Tu peux tout faire. Moi, je donne le cours comme je dois le donner. Tu mets tout ce que tu veux en fonction de ton client.
Dominique, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est pas croisé ?
En général, c'est croisé. Et les muscles du visage croisent aussi. Si maintenant tu fais bouger le petit doigt et que tu n'as rien de rien, de rien, de rien, fais bouger l'autre petit doigt, tu auras peut-être un changement. Ça va, c'est comme ça que tu le feras. On travaille sur une toute petite partie du cerveau ici. Donc on travaille que sur une composante du mouvement qui est la composante muscle contracte-toi. Ça va? C'est là-dessus. On est dans l'aire motrice primaire. Oui, mais dans un mouvement précis. La globalité du mouvement, c'est pour après. Donc, pour l'instant, on commence par du simple. Alors, c'est assez impressionnant, mais parfois, on ne sait pas ce qui va sortir dans la démo ici, mais parfois, le fait d'avoir travaillé sur un stress moteur comme ça, ça peut changer complètement la sensation de la personne, la perception de la personne. Donc, quand vous allez dans le cerveau, surtout quand vous travaillez au niveau des cortex, que la personne ne se lève pas d'un coup de votre table, elle pourrait tomber par terre. Parce que c'est vraiment très précis et très puissant. L'autre chose, il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est pas marqué. Oui, c'est ça. Je peux avoir un problème au pied, mon gros orteil que j'arrive plus à bouger tout seul, séparé des autres par exemple, et c'est le nez qui va sortir. Quand je vais scanner, ne vous en faites pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Les voies du cerveau aussi. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça. On travaille au niveau énergétique et parfois le problème se trouve là et empêche d'avoir accès à. Et parfois on se dit, mais non, c'est pas possible, je comprends pas comment ça se passe. Parfois c'est incompréhensible. Mais... Et parfois, la personne va tout d'un coup se rendre compte que « Ah, mais oui, c'est quand j'ai cogné mon nez que j'ai commencé à plus pouvoir. » Pourquoi ? On ne sait pas. On n'arrive pas à suivre dans le cerveau. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, dans certains cas, vous rentrez un timbre, tout va bien, vous rentrez ça, vous allez voir à droite, rien. À gauche, rien. Si ni l'air motrice primaire droite ni la gauche ne rentre, vous pouvez aller voir en bilate. Les deux ensemble. Mais si c'est bilatéral, à ce moment-là, vous ne devez pas aller voir l'oreille. Parce que c'est plus la collaboration des deux hémisphères qui joue et pas tellement une zone précise. Ça va ? Et là, généralement, à ce moment-là, c'est l'ensemble du corps, quoi, qui doit bouger. Et...
On passe dans autre chose.
Non, à ce moment-là, je saute l'oreille et je vais activer peut-être l'ensemble du corps.
Ah oui.
Tu vois ?
Si c'est par exemple pour tenir un... Le terme, c'est tenir un stylo pour un enfant, alors on lui fait tenir un stylo comme ça.
Quand ?
C'est bilatéral.
Quand ?
Quand c'est, si c'est bilatéral qui sort.
Oui, mais t'en fais pas. Si c'est vraiment un truc précis comme ça, ça sortira pas en bilatéral. Bilatéral, c'est plus chez des gens qui n'ont pas vraiment... C'est surtout dans la classe, quoi. Des gens qui n'ont pas vraiment de problème. Ils choisissent un thème, mais bon, c'est pas tellement... Tu vois, voilà. Mais en général, si c'est un problème, comme tu dis, dans l'enfant, etc., là, c'est pas... C'est garanti que tu trouveras quelque chose de très précis. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un truc physique, enfin, musculaire, comme ça, et qui a envie... de venir sur la table.
Ça peut être une douleur avec un...
Non, je ne veux pas de douleur pour l'instant. Ça, on va y arriver après, mais pour l'instant, non. Quelqu'un qui a envie d'améliorer quelque chose...
Je voulais demander. Je ne sais absolument presque rien faire à gauche. Par exemple, je ne sais pas faire le clin d'œil à gauche.
Ah, on peut rentrer le clin d'œil.
Ça peut marcher.
Ça. Oui, ça c'est musculaire. Ça c'est musculaire. C'est comique, mais pourquoi pas? On peut faire ça, clairement. Ou si tu veux venir pour ça, si personne ne veut venir.
Tu as très envie?
Très bien. De toute façon, c'est bien d'avoir un truc simple pour la première vidéo. Toi, tu vas pas.